France Inter.
Oui, bonjour, je me permets de vous appeler et de vous laisser un message, car sur le site change.org, je viens de signer la pétition « Non à la retenue collinaire » de Super Morzine. Je vous invite tous à la signer. Morzine est ma station préférée en été, en hiver, mais je ne veux pas skier sur de la neige artificielle. Le jour où, malheureusement, on ne pourra plus skier, bah tant pis, je ne skierai plus. Mais enfin, faut qu'on arrête de marcher sur la tête. Le syndrome du Titanic, tout ça, enfin, ça va un moment, mais là, je pense qu'il faut vraiment que les gens se réveillent. C'est une super station, Avoria, été comme hiver. Une des, si ce n'est la seule station où il n'y a pas de voiture. Quand on a la chance d'y passer une semaine, on passe une semaine sans voiture. Enfin, c'est un luxe de nos jours. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il ne faut pas gâcher tout ça. Donc, change.org, non à la retenue collinaire de Super Morzine. Merci à tous, merci pour la qualité de vos émissions. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour La Terre au Carré. Moi, j'ai constaté depuis le début de l'année, à côté de Saint-Chély, en Lozère, à 1100 mètres d'altitude, que depuis le début de l'année, il y a une recrudescence du trafic aérien qui est complètement dingue. Alors, je veux bien qu'on parle d'initiatives, de réduction, de modération, de transformation ou de transition de toutes sortes. Mais je sais pas, les compagnies aériennes, à mon avis, font pas partie du schéma, quoi. Et puis après, on vient nous parler du bilan carbone. Voilà. Bon, ben, merci pour vos émissions. Et puis, en espérant que peu à peu, ça aille dans le bon sens, parce que là, j'ai l'impression que c'est tout et son contraire. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Béatrice de Paris. Dans votre dernière émission, votre invitée Élise Rousseau parle de, je cite, « l'envie de découvrir de certains humains » pour justifier les voyages lointains en avion. C'est marrant car les humains touchés par cette envie irrépressible sont dans l'immense majorité issus de pays riches et une grande partie de la population sur Terre a peut-être cette envie, mais elle ne se pose même pas la question de la réaliser parce qu'elle n'a pas ses privilèges financiers ni de nationalité. Du coup, votre invité invisibilise toute une partie de la population sur Terre pour qui les voyages lointains ne sont même pas une option. C'est dommage de ne pas l'avoir rappelé alors qu'on sait que les plus riches émettent infiniment plus de carbone que les personnes les plus pauvres sur la planète. Voilà, merci pour vos émissions, au revoir.
C'est bien noté, Béatrice. Grâce à vous, le rappel a été fait. Merci pour vos messages, amis de la Terre au Carré. Continuez à nous appeler au 01 56 40 45 45. Peut-être faites-vous partie des téléspectateurs que ce film a marqué. Diffusé pour la première fois en 2003, ce documentaire fiction nous a raconté nos origines comme jamais cela n'avait été fait auparavant. Il retraçait sur 7 millions d'années l'histoire évolutive de la lignée humaine. Ce film, c'est l'Odyssée de l'espèce. Il a connu un succès planétaire, 400 millions de téléspectateurs dans 25 pays. Près de 20 ans plus tard, son réalisateur, Jacques Malaterre, nous propose de repartir sur les traces de nos ancêtres avec un nouveau docu-fiction intitulé « Les derniers secrets de l'humanité ». Ce nouvel opus nous emmène en Asie. Sur ce continent se sont déroulés quelques-uns des plus beaux chapitres de l'histoire de l'humanité. Cette terre à la faune singulière a vu cohabiter il y a moins de 50 000 ans pas moins de 6 espèces humaines. Bien avant elle, il y a 2 millions d'années, Homo erectus s'était déployé sur tout le continent asiatique. Les nombreuses découvertes scientifiques réalisées ces dernières années permettent de retracer la grande aventure du genre homo sur ce continent et puis d'entrevoir cette partie encore très méconnue de l'histoire de nos ancêtres. Le film « Les derniers secrets de l'humanité » sera diffusé demain soir sur France 2 et nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi son réalisateur. Bonjour Jacques Malaterre.
Bonjour.
Vous allez nous raconter les coulisses de ce film spectaculaire avec des semaines de tournage en Chine dans des paysages somptueux. Également avec nous l'un des conseillers scientifiques du film, Antoine Balzo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez notamment publié « Brève histoire des origines de l'humanité » aux éditions Talendier. Vous allez nous raconter les dernières découvertes faites sur ces humanités qui ont cohabité en Asie. Puis vous nous direz aussi comment vous avez travaillé sur ce film. Je précise qu'un autre illustre paléontologue a été conseillé sur ce film, le regretté Yves Coppens, qui avait déjà participé à l'aventure de l'Odyssée de l'espèce. Nous attendons vos messages et vos questions dès maintenant sur la page de la Terre au Carré. Vers 14h30, nous retrouverons Camille Cronier et sa chronique Camille passe au vert. Camille nous emmènera faire un tour dans la bibliothèque d'un certain Charles Darwin. Voilà pour le sommaire de cette émission, préparée par Chantal Lemontagnier, réalisée par Anaïs Reynard, avec Laurent Baudouin à la technique.
La Terre au Carré. Daniel Fievé sur France Inter.
Le genre humain est né il y a plus de 2 millions d'années. Aujourd'hui, grâce aux progrès faits dans tous les domaines, la science révèle enfin la vie de nos ancêtres et l'extraordinaire odyssée qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Une histoire planétaire dont l'Asie est pour les scientifiques du monde entier un gigantesque et fabuleux laboratoire, véritable témoin de l'évolution des êtres humains. Cette terre à la faune extraordinaire a vu pas moins de 6 espèces humaines cohabiter. C'était il y a à peine 50 000 ans. Alors aujourd'hui, au cœur du 21e siècle, grâce aux plus récentes recherches, nous pouvons enfin découvrir qui ils étaient.
Ainsi débute le documentaire fiction « Les derniers secrets de l'humanité » qui sera diffusé demain soir sur France 2 à 20h30, hein, en première partie de soirée. Jacques Malaterre, une vingtaine d'années après avoir réalisé ce film dont je parlais, hein, « L'Odyssée de l'espèce », vous avez voulu raconter une autre partie de cette grande odyssée centrée sur l'Asie. Alors entre-temps, je précise aussi que vous aviez réalisé d'autres films, hein, sur l'histoire de nos ancêtres et de nos cousins, « Homo sapiens »,« Le sacre de l'homme », hein, où vous reveniez sur l'avènement des civilisations. Là, c'était vraiment la transition entre histoire et préhistoire. Puis il y a aussi le dernier Néandertal que vous aviez réalisé. Donc c'est un nouvel opus, cette fois-ci centré pour la Chine. Pourquoi avoir voulu reparler de cette histoire du point de vue de ce continent?
Parce que 20 ans après l'Odyssée de l'espèce, qui est vu et revu dans les lycées, les collèges, encore aujourd'hui, mes enfants, mon fils qui a 12 ans, a encore vu l'Odyssée de l'espèce.
Ah, ça a fait naître des générations de vocations, hein, de paléontologues.
Ça nous rajeunit pas, mais c'est ça. Donc on s'est dit quand même, en 20 ans, il y a eu beaucoup de connaissances. La science a beaucoup évolué sur cette période-là. Pas tellement sur la manière dont ils taillaient les cailloux, dont ils occupaient les grottes, mais plutôt sur ce qui était nos ancêtres, qui a fabriqué notre âme, notre émotion, notre cerveau. Ils se sont upgradés. D'ailleurs, avec une des choses qu'on s'est dites en premier avec Yves, on s'est dit il faut les montrer beaucoup plus intelligents que ce qu'on les a montrés il y a 20 ans.
Avec Yves, c'est Yves Coppens.
Yves Coppens
qui vous avait accompagné dans l'aventure de l'Odyssée de l'espèce et qui a travaillé avant sa mort, il travaillait avec vous à la réalisation de ce film. Quand vous lui avez dit j'ai envie d'aller en Chine pour raconter une autre partie de l'histoire, il vous a tout de suite suivi, il a tout de suite trouvé que c'était une bonne idée.
Ah oui, il a sauté de joie parce qu'il s'est dit, on a fait l'Afrique, on a fait l'Europe, on a fait le Moyen-Orient, il ne reste plus que l'Asie. Et l'Asie va être un fabuleux miroir de la préhistoire planétaire pour raconter ces choses-là, parce qu'il y a d'abord des paysages qui vont des steppes mongoles jusqu'aux forêts tropicales, avec des animaux extraordinaires à cette période-là qui n'existent qu'en Asie. Le gigantopithèque, le tigre dents de sabre, il y en a un peu partout, mais aussi le stégodon, l'ancêtre de l'éléphant.
Ouais.
Donc c'est pour moi, pour le réalisateur, c'était un terrain de jeu fabuleux. Ouais. Et pour ce paléontologue rock'n'roll, je dirais rock'n'roll, parce qu'il a accepté de faire le docu-fiction, et là, pour la première fois, il a participé au scénario avec moi. J'ai dit, allez, viens rêver la petite histoire avec moi. Et c'est pour ça qu'on s'est adjoint Antoine Balzo pour nous tenir dans les cordes et qu'on ne rêve pas trop loin.
Antoine Balzo, vous avez eu besoin de tenir Yves Coppens pour pas qu'il parte trop loin?
Oh, c'est surtout Jacques qu'il fallait tenir. Non. En fait, pas du tout. La réalité est tout autre. La construction de tout le contenu scientifique s'est fait de manière très fluide et les échanges étaient très efficaces. Il n'y a pas eu de difficulté, en fait, sur une chose à mettre ou à enlever. Avec Jacques, on s'est parfaitement entendu sur ça, il n'y a eu aucun problème. Donc, on a pu faire rentrer autant de science qu'on le souhaitait, tout en racontant une belle histoire.
Et de la science, au cours des dernières 20 années, il y en a eu qui s'est joué sur le continent asiatique. On a fait de multiples découvertes sur les origines de l'homme.
Énormément, évidemment. Alors, il ne faut pas oublier que la préhistoire, c'est une science à beaucoup de trous. On a un puzzle très fragmentaire. Il ne faut pas attendre qu'on puisse reconstituer avec précision le quotidien de chaque jour, de chaque espèce humaine. Ce n'est pas la finalité. Là, dans une fiction, le propos, c'est de montrer les grandes lignes, les grandes informations qu'on a sur ce peuplement de l'Asie qui a été beaucoup plus riche que ce qu'on pensait pendant très longtemps. On avait une vision très fixiste de cul-de-sac de l'évolution. Et là, on a voulu montrer cette diversité humaine, ce mélange grandiose d'humanité qui habitait l'Asie.
Ce foisonnement, hein, parce que là, on en a vraiment conscience, c'est buissonnant, on n'a pas une lignée linéaire avec les espèces qui se succèdent, c'est un arbre phylogénétique avec de multiples embranchements.
C'est l'état des connaissances aujourd'hui, une diversité gigantesque, sans pour autant avoir encore une vision précise de l'ancêtre, des différents ancêtres, des différentes perspectives, des fins, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la fiction, on les montre ensemble, pour pas se mouiller et pas partir sur des hypothèses qui ne sont pas tenables sur la finalité de chacune des espèces.
Alors, on remonte jusqu'à 2 millions d'années en arrière, avec le premier représentant du genre Homo qui ose s'aventurer sur ce continent asiatique, c'est Homo erectus. Vous nous le remettez un peu en tête, Homo erectus, Antoine Balzo. Qui est-il? D'où sort-il? Quelles sont ses capacités?
La certitude, c'est qu'il part d'Afrique.
Ouais.
Tous les fossiles humains antérieurs sont sur le continent africain. Et d'un seul coup, il y a à peu près 2 millions d'années. Évidemment, ce n'est pas à quelques années près. On n'a pas cette précision-là, mais en fait, on a des fossiles depuis le sud de l'Afrique jusqu'au fin fond de l'Asie, Java, à peu près à la même époque, autour de 2 à 1,8 millions d'années. Donc ces humains sont dispersés partout. Et la grande différence par rapport aux humains précédents, c'est qu'ils nous ressemblent plus dans le sens où ils ont un corps plus adapté à la marche, au déplacement, des grandes jambes, des petits bras. C'est la grande modification de cette période de l'évolution humaine. Et ça a été un moteur incroyable d'adaptation aussi, parce que l'humain, à partir de ce moment-là, arrive à vivre dans des écosystèmes extrêmement variés.
Sauf que si j'ai bien compris, hein, en regardant ce documentaire, évidemment plein de petits groupes s'éparpillent sur le continent et se diversifient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un portrait robot type de l'Homo erectus qui vit sur en plus des centaines de milliers d'années sur ce continent.
Vous avez tout à fait raison. Des fossiles, on en a peu à travers le temps, sur toute l'Asie. Donc à chaque fois qu'on trouve un fossile, évidemment, il a des particularités par rapport aux contemporains à 1000 km ou par rapport à ceux qui succèdent à 100 km. Ça, c'est une certitude et c'est la difficulté de reconstituer ça. Par contre, Homo erectus, il y a une certaine forme d'homogénéité générale, des principaux caractères morphologiques, les choses spécialisées que les paléoanthropologues étudient dans leur bureau. On voit cette continuité depuis 2 millions jusqu'à 100 000 ans, à peu près, avec cette unité sur l'Afrique et puis une grande partie de l'Asie. Donc c'est une grande histoire d'humanité qui se joue là.
Jacques Malaterre, vous, il a fallu que vous l'incarniez, cet Homo erectus, avec des vrais comédiens, avec des masques. Comment vous avez décidé de l'aspect qu'il allait avoir?
Alors l'aspect, on s'appuie essentiellement sur les découvertes scientifiques, puisque maintenant, je veux dire, à partir d'un crâne, grâce aux méthodes de la police scientifique, on arrive à avoir à peu près le faciès. Mais ça nécessite malgré tout, par acteur, 4 heures de maquillage tous les jours. Et 1h30 de démaquillage. Donc, si vous rajoutez à ça 8 à 10 heures de tournage, vous voyez ce qui reste pour les acteurs pour dormir. Mais après, la difficulté, elle n'est pas là. C'est qu'il n'y a rien de plus difficile à interpréter qu'un homme préhistorique. Parce qu'il n'y a pas de modèle. On ne peut pas aller au commissariat voir comment bouge un flic, ou à l'hôpital voir comment parle le médecin. Il va falloir réveiller l'homme préhistorique qui est en nous.
L'Homo erectus qui est en nous. Hein. Donc
l'homo,
là, vraiment,
encore avant, l'Homo erectus qui est en nous. Et là, c'est un énorme casting. C'est 2000 vidéos où je regarde des corps, des gens, comment ils bougent, comment ils font un homme préhistorique. Au début, un acteur, quel qu'il soit, tous les castings que j'ai fait en Angleterre, en Afrique du Sud, on vous fait un imbécile. Alors qu'il faut faire quelqu'un qui est intelligent, puisqu'il a adapté son milieu, il va vivre pendant 2 millions d'années dans la nature, et nous livrer une planète en état de marche. Donc je vois ces vidéos, puis j'en ai vu 1200 en vrai, et puis j'en ai sélectionné 100, et là on va répéter pendant 3 mois, on va répéter tous les jours, pour qu'ils puissent redevenir, parce que je ne supporte pas qu'on fasse semblant, redevenir préhistoriques. Et ils vont redevenir préhistoriques.
Alors ils vont redevenir préhistoriques, vous ne nous racontez pas uniquement leurs aptitudes et leur apparence physique, hein. on rentre un peu dans ce qu'ils ont dans la tête, dans des choses très impalpables, comme le langage par exemple.
Les échanges entre Homo erectus sont courts, directs, simples et efficaces. On ne les appelle pas encore des mots, mais des phonèmes. Des sons, des codes, qui correspondent à des objets, des actions. Grâce à cela, il sait transmettre, et peut-être même expliquer. c'est le début d'un langage organisé. Le premier pas vers une parole élaborée.
Alors ça pose plein de questions, ça, Jacques Malaterre. Déjà, qu'est-ce que vous leur avez fait dire? Comment vous avez créé ce langage? Vous les avez laissés improviser? Vous avez
pas
inventé?
Pas du tout. Oh non, c'est une précision diabolique.
Ouais.
Avec qui, depuis 20 ans, on s'est dit, il y avait deux choses pour les faire parler. Soit on prenait une bouteille de vodka, on passait une soirée et on inventait. Soit on s'est dit, mais tiens, quand finalement le singe s'est mis debout, que son larynx s'est développé, comment le cri s'est transformé en son, comment ce son est devenu une syllabe. Puis on a pris les mots qui existaient dans le monde entier. Maman, ça se dit presque partout pareil dans le monde. Et puis après, on a commencé à mélanger des bouts de dialectes locaux selon les pays où on se trouvait. Et on a créé un lexique Homo erectus, ouais. Un lexique Homo sapiens. On écrivait nos dialogues en français, traduits en chinois, traduits en Homo sapiens ou en Homo erectus. Okay. Et les acteurs travaillaient cette manière de parler, même cette manière d'articuler selon comment était leur mâchoire à cette époque-là. Et après, voilà. Après, ça reste de l'inventer. Mais enfin, ouais. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Peut-être qu'on a fait du langage préhistorique sans le savoir.
Antoine Balzo.
Ce qui est intéressant, évidemment, on n'a pas d'enregistrement des humains préhistoriques et même pas de perspective réelle sur leur langage. On a des données archéologiques qui nous laissent penser que c'est une histoire ancienne, réellement. Néanmoins, il y a quand même des progrès qui ont été faits, aussi bien en imagerie comparative aujourd'hui sur les grands singes, que l'étude des sons émis et entendus par les grands singes. Et on se rend compte que cette simplicité qu'on a eue pendant très longtemps de dire « il faut avoir une morphologie d'Homo sapiens pour parler comme nous et mettre les mêmes sons, les mêmes voyelles », eh bien c'est faux. La gamme de voyelles qui existe chez Homo sapiens, les primates, globalement, peuvent les faire. Donc les humains préhistoriques, probablement aussi. Et finalement, ce qu'il faut retenir dans la fiction, c'est pas forcément le mot exact qui est utilisé par Homo erectus. Pourquoi pas, d'ailleurs, si vous adorez, c'est amusant. Mais c'est de montrer aussi que là, on met en image, Jacques met en image, la réalité de nos connaissances archéologiques, de progrès, est beaucoup plus ancien que ce qu'on imaginait, de langage construit qui permette de faire passer des messages complexes très très tôt au cours de l'évolution humaine.
Nous partons en Asie, sur les traces de nos ancêtres, avec le réalisateur Jacques Malaterre et le paléo-anthropologue Antoine Balzo cet après-midi sur France Inter. Pour adresser une question à nos invités, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Gamin ne parle plus en MP3 mais en MP5. Ça sent le sapin, le Père Noël s'habille en Prada. Il a des sapins en satin, faut que le top, faut que je stoppe, c'est biche qui comme un gosse me note. Elle veut les sommes, les grosses me notent, mais je suis toujours au-dessus comme un cosmonaute. 91, ma génération, faut les caras, le cash, faut qu'on génère à fond. Le blé, le beurre, argent liquide, j'attends que mes céréales fondent. Mets le kérosène dans les réacteurs, j'écris ma life en fonction des caractères. Je suis comme un rédacteur, on a les cartouches avec un. Ils veulent pas qu'on les sorte, j'envoie les trois points, ils font les fautes, rappeurs font les sautes avant qu'on les saute. Le manque d'autorité, devant la mer se dresse, un pied dans la rue ou dans le Mercedes, sueur et larmes dans la mer se baisse.
Tu verras, Axel, pour le prochain mec qui bute, c'est moi. Pas d'importance. Un jour, on part tous les pieds devant.
Bang, bang. Fuck les clones, mon esprit est sain mais mon corps déconne. Nous voit comme si on était des clones, nous envoie les virus et le clone déconne. Je suis dans le fond, comme à l'école, je les regarde glousser comme des connes.
Bang, bang.
La rue de Brest laisse beaucoup de plomb dans le corps des hommes.
Bang, bang.
Fuck les clones, mon esprit est sain mais mon corps déconne. Nous voit comme si on était des clones, nous envoie les virus et le clone déconne. Je suis dans le fond, comme à l'école, je les regarde glousser comme des connes.
Bang, bang.
La rue de Brest laisse beaucoup de plomb dans le corps des hommes.
Je prends les micros, les comiques on stop, ils sont minuscules, ils sont chromosomes. Toujours un œil dans les microscopes et je suis toujours au-dessus, comme ozone, comme microscope. Vous voulez les infos, les prénoms, les noms, le cachet, les comptes.
Jamais.
Beaucoup de lèche-bottes qui ne font que me tâcher les pompes.
J'arrive comme Django sur étalon, Nicolas n'est qu'un gangster sur des talons. C'est un BDG, c'est pas dur et pas long. À quoi sert un million en survêtalon?
Tous les docs sont chez le veto. Pour faire ce pas, je me suis levé tôt. On a vendu dans le ghetto, j'ai tourné en rond dans le dépôt.
Bang, bang. Fuck les clones, mon esprit est sain mais mon corps déconne. Nous voit comme si on était des clones, nous envoie les virus et le clone déconne. Je suis dans le fond, comme à l'école, je les regarde glousser comme des clones.
Bang, bang.
La rue de Brest laisse beaucoup de plomb dans le corps des hommes.
Bang, bang.
Fuck les clones, mon esprit est sain mais mon corps déconne. Nous voit comme si on était des clones, nous envoie les virus et le clone déconne. Je suis dans le fond, comme à l'école, je les regarde glousser comme des clones.
Bang, bang.
La rue de Brest laisse beaucoup de plomb dans le corps des hommes.
C'était Prince Wally qui chantait MP5.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Quel est cet animal? Qui est cet être? Un gigantopithèque. C'est la première fois qu'ils en voient un. Le gigantopithèque est trop massif pour grimper aux arbres. Alors il vit au sol. Le gigantopithèque est le plus grand primate de tous les temps. Il pèse presque une demi-tonne et sa taille peut atteindre 3 mètres. Chonet pourrait se jeter par surprise sur l'animal et tenter de le tuer. Mais la bête est trop forte. Elle le balayerait d'un seul geste. Et puis, il y a ce regard, si différent et pourtant si proche du sien.
Un nouvel extrait du film Les derniers secrets de l'humanité, réalisé par notre invité Jacques Malater. Le film sera diffusé demain soir à 20h30 sur France 2. Avec ce film, on remonte le film de l'histoire de l'humanité sur le continent asiatique. Et c'est l'occasion de croiser une faune disparue aujourd'hui, hein, qui a vécu sur ce continent il y a plus d'un million d'années, comme ce gigantopithèque absolument impressionnant dans le film. Ça faisait partie du défi, Jacques Malater, de nous plonger dans cette faune et cette flore du passé.
Ah oui, là, je crois qu'il fallait, en Asie, la faune est tellement extraordinaire qu'il fallait donner aux spectateurs de voir cela. Parce que souvent, les gens disent « Ah, la préhistoire, c'est les dinosaures. » Bon, ça n'a rien à voir.
Ah bah oui.
Mais il faut leur donner à manger, il faut leur donner du rêve. Et grâce à l'Asie, on peut leur donner du rêve avec des animaux extraordinaires, avec des animaux qu'on pourrait qualifier de préhistoriques parce qu'ils n'existent plus aujourd'hui et qu'ils ont des tailles monumentales.
Ouais.
Si on prend le stégodon, le mammouth à côté, c'est un teckel.
Ouais. Le stégodon, c'est l'ancêtre de l'éléphant, une sorte d'éléphant avec des petites oreilles, pour le décrire vite fait.
Voilà, mais très très haut, très grand. Et le gigantopithèque, c'est l'ancêtre du gorille, mais monumental. Quoi. Ouais. Il est monumental avec voilà. Après, moi, j'ai utilisé ça et avec Yves et Antoine, on a voulu faire ça, utiliser ce regard, parce que souvent, quand on regarde un singe, on a toujours l'impression qu'il y a un homme qui est enfermé dedans.
Ouais.
Donc ça nous sert à porter de l'émotion dans le film. Ouais.
Antoine Balzo, ce gigantopithèque, alors il faisait 2-3 mètres. Qu'est-ce qu'on en a retrouvé sous forme fossile? Parce que là, on le voit tout à fait reconstitué, mais on avait quelques très minces pièces du puzzle pour pouvoir le reconstituer.
Il est beau, n'est-ce pas, dans le film?
Ouais.
Non, c'était exceptionnel. Ça a été presque la partie la plus difficile pour moi, finalement, parce que les experts d'effets spéciaux sur les animaux préhistoriques avaient besoin de beaucoup de détails. Et pourtant, le gigantopithèque, on en connaît quelques dents et des bouts de mâchoire, donc quasiment rien. On a une estimation globalement de la taille de la bête, plus de 3 mètres, mais on n'a pas de certitude. Donc, il a fallu reconstituer une anatomie qui soit cohérente. C'était ça, vraiment, l'idée. Scientifiquement, on a peu de données. Il a fallu faire le tour par rapport à la génétique, etc. Et trouver quelque chose de logique aussi. Et c'est pour ça qu'on a fini sur cette forme de corps-là, qui est un bon mélange des grands primates existants aujourd'hui. Mais je voulais absolument aussi que ce soit réaliste par rapport à sa taille et sa forme de corps, et que ça donne quelque chose qui ne soit pas justement une caricature d'orang-outan parce qu'on était en Asie.
Oui, c'est ça.
D'où ce monstre.
Moi, je m'attendais plus à un singe qui ressemble à un orang-outan, alors qu'il ressemble plus à King Kong, votre gigantopithèque.
En fait, pas du tout. King Kong, il est très proche du gorille.
Oui, c'est ça. Mais là, il ressemble plus à un gorille, je trouve.
Il a une anatomie qui est plus neutre. C'était ça aussi. D'un point de vue évolutif, l'idée, c'était de montrer un très grand singe, donc probablement se déplaçant pas dans les arbres, donc des bras plus courts, donc des proportions un peu différentes. Et même dans son expression corporelle, on a choisi qu'il n'ait pas une expression. Vous verrez, il fait peur dans le film.
Ah oui, il fait peur.
Mais que ce soit pas une caricature de gorille ou d'orang-outan.
Ouais.
On voulait que ce soit quelque chose de mélangé, de raisonnable. Donc, en gros, j'ai été voir des primatologues et on a mélangé certains signes qui apparaissent chez tous les grands singes aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose d'impressionnant et qui soit assez neutre.
Et alors, est-ce qu'on sait comment il a disparu, le gigantopithèque?
Voilà, vous me poussez dans les détails scientifiques. C'est typiquement le genre de choses qui sont complexes. Il y a un article qui est sorti il y a très peu de temps expliquant la disparition du gigantopithèque, mais basé sur si peu de fossiles que, autant il y a une certaine corrélation avec le fait qu'on n'ait plus après, mais être sûr que ce soit la causalité, le changement climatique, il n'y a aucune certitude.
Ouais.
Dans les faits, on ne sait pas bien, comme on ne sait pas bien à quoi il ressemble, ni sur quelle étendue géographique il pouvait être distribué.
Et on sait comment Erectus, qui a vécu pendant des centaines de milliers d'années, a fini par disparaître d'Asie.
Ah, En préhistoire, ou dès qu'il s'agit d'évolution, les questions de disparition sont extrêmement complexes. Alors déjà, l'apparition, on les voit pas. Quand on voit un fossile, c'est pas le premier d'une espèce. Le dernier, c'est la même chose. On a des fossiles, et puis après, on en a plus. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont disparu? Pile à ce moment-là, il n'y a aucune certitude. Maintenant, les fossiles les plus récents qu'on ait d'Homo erectus, c'est à peu près 100 000 ans. Et finalement, ce qui est intriguant, ça veut dire qu'il y en a eu après aussi. Hein. 100 000 ans, on peut estimer que ça a continué. Ce qui est intriguant, c'est que finalement, cette histoire de disparition d'espèces, elle concerne Néandertal, elle concerne ces Homo erectus, l'homme de Flores, l'homme de Lausanne, les Denisoviens, qu'on ne connaît pas encore bien, mais qui ont disparu. Et ce qui est intriguant, c'est que même Homo sapiens, les fossiles les plus anciens qu'on ait trouvés sur toute l'Asie, en fait, ne sont pas nos ancêtres directs aux humains d'aujourd'hui. Ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique des humains. Eux aussi ont eu une crise, ont disparu. Et c'est une seconde expansion d'Afrique qui a permis l'essor à nouveau d'Homo sapiens. Donc, c'est une histoire de fin de tout le monde, en fait, en Eurasie.
C'est ça. En fait, il n'y a qu'un seul survivant pour beaucoup de gens qui disparaissent et beaucoup de lignées qui disparaissent.
Et surtout, le seul qui ait survécu, nous, avait encore un pied en Afrique et c'est ce qui l'a sauvé. Donc, ce mystère des disparitions en Asie, ce sera peut-être le prochain film de Jacques dans 20 ans quand on aura plus de données scientifiques pour le traiter.
Mais c'est ça, on se rend compte la fragilité de la matière dont vous partez pour nous raconter ces histoires, Jacques Malaterre. C'est très lacunaire, il y a plein d'énigmes, et vous, il faut que ce soit concret. Hein, et vous ne partez pas sur plusieurs hypothèses, vous nous montrez des petites scénettes. Il y a 7 histoires qui s'entremêlent, enfin qui se succèdent dans cette grande histoire pour illustrer.
C'est ça, il faut trouver la petite histoire qui raconte la grande histoire.
Ouais.
Et Yves l'imaginait très bien. Il me disait, voilà, moi je te donne tout, on vous donne tout, nous les scientifiques, comme Antoine, pour que vous ayez les éléments pour imaginer cette petite histoire que peut-être la science nous interdit à nous d'imaginer. Et donc vous, maintenant après, courez, rêvez dans les limites du raisonnable. C'est pour ça que après avoir écrit chaque petite histoire, Antoine et Yves me relisaient et me corrigeaient si besoin était, pour raconter. Mais moi, après, déjà, j'avais des éléments fabuleux. Et c'est pour ça que j'aime faire des films historiques ou des films préhistoriques, parce que je trouve que la préhistoire ou l'histoire a la plus belle d'imagination que n'importe quel scénariste. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin et se raconter nous-mêmes. Et en préhistoire, c'est là où c'est extraordinaire, c'est quand on rencontre des émotions très fortes par les choses, les émotions les plus simples qui existent.
C'est vrai qu'on voit beaucoup d'émotions. On les voit pleurer, on les voit s'émouvoir. Vous imaginez qu'Erectus peut commencer à s'émouvoir de la mort de l'un des membres de son groupe. Tout ça, c'est, vous l'imaginez, ou c'est avec des données cognitives ?
On l'imagine avec des données que nous donnent les scientifiques, en disant certainement l'empathie a commencé à ce moment-là, puisque quelques centaines de milliers d'années après, sa pièce va enterrer ses morts, donc va avoir vraiment un attachement à ses morts. Donc on s'est dit, ça va être le film de la première fois. La première fois qu'on dompte le feu, la première fois qu'on le fabrique, la première larme, le premier amour. Ouais. C'est joli la première fois, c'est des choses qu'on n'oublie pas de toute sa vie.
Ce sont des histoires de première fois, avec effectivement le feu. Au début, il le recueille suite à un éclair qui foudroie un arbre, il le recueille, après ils apprennent à le faire. Et justement, Georges, qui nous écoute, vous envoie cette question. Comment faisait-il pour préserver le feu? Quand il ne savait pas encore l'allumer, qu'il fallait le conserver, comment faisait-il?
Alors, là, on le montre dans le film. Il faut comme quand Georges fait son barbecue, il faut l'alimenter avec du bois, il faut le protéger du vent, il faut le protéger de la pluie, il faut le transporter, on le montre dans la deuxième histoire. Il transporte, il gardait des braises au milieu de feuilles. Ça, on s'est aussi beaucoup basé sur les tribus au XIXe siècle qui transportaient ce feu-là. Oui, il fallait le garder, c'était un trésor. Mais ce trésor, on l'a toujours en nous. Parce que vous regardez les gens en hiver devant un feu de cheminée ou en été devant un barbecue. D'un coup, ils s'arrêtent de parler et ils regardent ce feu. Ouais. Parce qu'on porte encore en nous cette attraction pour cette chose qui éloigne les bêtes sauvages et qui nous éclaire la nuit. Donc on a cet attrait du feu encore en nous.
Et vous montrez là aussi de façon évidemment fictionnelle, mais le drame que ça pouvait être à l'époque, quand on ne savait pas encore allumer le feu, de voir ce feu s'éteindre suite à des pluies diluviennes par exemple.
Mais c'est terrible, c'est un retour en arrière, c'est comme nous quand demain on n'a plus d'électricité plus d'essence. C'est un retour, on fait un flashback, et là pour eux c'était un flashback terrible, ils se retrouvaient, et puis ils se retrouvaient fragiles. Ils redevenaient des proies alors qu'ils étaient des chasseurs.
Nous allons nous intéresser à l'épopée de Sapiens en Asie et puis aux autres espèces humaines qui l'ont côtoyé sur ce continent dans la suite de cette émission. Mais à 14h33, il est grand temps de retrouver Camille Cronier.
France Inter, La Terre au carré.
Camille passe au vert et nous emmène dans une exploration passionnante.
Je vous emmène faire une plongée fascinante aujourd'hui, une plongée dans la bibliothèque personnelle de Charles Darwin. Jusqu'à maintenant, environ 1500 livres appartenant au plus célèbre des naturalistes étaient inventoriés, la plupart conservés à l'université de Cambridge ou dans son ancienne maison du Kent en pleine campagne anglaise devenue musée. Mais c'était sans compter sur un historien des sciences spécialiste de Darwin, John Von Wye, qui vient de reconstituer toute la bibliothèque personnelle, avec bien plus que des livres. Il y a aussi des journaux, des brochures, des articles, des dessins. Tout ce qu'il considère comme ayant des informations pouvant nourrir ses théories, il les récupère et il les conserve. 7400 objets au total. Et pour les retrouver, le chercheur s'est transformé en détective Von Wye. Un travail de fourmi. Pendant 20 ans, il a écumé les 426 pages et toutes les entrées d'un inventaire écrit à la main. Pareil pour les lettres écrites par Darwin, des correspondances sur 30 volumes dans lesquels il mentionne certains des livres ou des articles qu'il possède. Des carnets où il écrivait combien il avait payé tel ou tel ouvrage. Et puis le chercheur a passé en revue toutes les ventes aux enchères depuis la mort de Darwin en 1882.
J'ai exploré toutes les ressources connues et je suis confiant aujourd'hui sur le fait qu'on a presque tout. Je suis sûr qu'un ou deux éléments pourraient se cacher dans des collections privées anciennes, mais on l'a, c'est sa bibliothèque reconstituée telle qu'elle était.
Avec une variété incroyable, tout n'est pas de la recherche scientifique, il y a aussi de la littérature, de l'histoire, des choses sur l'investissement, la gestion du foyer...
And on household management.
Ce qui rend sa bibliothèque extrêmement éclectique et variée. En me baladant dans cette bibliothèque virtuelle, parce que tout est accessible en ligne, je suis tombée aussi par exemple sur des livres pour enfants, il en avait 10, hein, des enfants, des titres mentionnant les émotions, mais aussi l'histoire politique des troubles de France au XVIe et XVIIe siècle. Un tiers des ouvrages sont en français, mais il y a aussi des trucs en allemand, en danois, en italien, parce que John Von Wye le rappelle...
C'est un peu un ermite. Il habite à la campagne et n'aime pas trop aller aux conférences scientifiques à Londres, mais il achète la littérature scientifique du monde entier.
Qu'il arrive à comprendre en langue étrangère. Bon, beaucoup de sciences naturelles, bien sûr, quand même. La biologie et la géologie sont majoritaires, mais là encore, c'est super varié. Par exemple, la plupart des gens sont spécialisés sur les mammifères ou les oiseaux, mais la bibliothèque de Darwin contient autant de choses sur la botanique en général, que sur les champignons, les coraux ou différentes espèces de plantes carnivores, etc. Et c'est ce qui est tellement incroyable. Il y a tout dans un seul endroit. La diversité de son intérêt est inégalée. Alors j'ai vu des articles aussi sur les bébés hippocampes ou la distribution des céphalopodes dans les contrées siluriennes, d'autres sur le changement climatique à l'époque glaciaire ou encore animaux fossiles du mont Léberon dans le Vaucluse. Tout l'intéressait dans sa quête pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre et comment tout fonctionne, et il en prenait soin à sa façon.
Darwin était connu pour être brutal avec ses livres. Si un livre était très lourd et gros, il le déchirait littéralement en deux pour qu'il puisse le porter plus facilement.
Oubliez donc la bibliothèque un peu luxueuse où rien ne dépasse, les quelques photos montrent un foutoir synonyme du travail acharné de Darwin. Autres éléments mis au jour et qu'il conservait aussi... Plein de livres critiquant Darwin parce qu'il était devenu l'un des hommes les plus controversés et haïs en raison de ses théories de l'évolution. John Von Wye précise aussi que certains des ouvrages seraient aujourd'hui inacceptables, racistes ou sexistes. Il était par exemple commun à l'époque de parler des femmes comme intellectuellement inférieures aux hommes et Darwin ne l'a pas remis en question. Mais il n'était pourtant pas lui forcément le plus intellectuel. La preuve.
Darwin avait une passion pour les romans d'amour vulgaire. Il n'aimait pas la grande littérature, il aimait lire pour s'évader et il lui fallait une belle héroïne dont il pouvait tomber amoureux et une fin heureuse. Il disait qu'il faudrait inventer une punition spéciale Pour ceux qui écrivaient des romans avec une fin triste, il ne les aimait pas.
Et dans la liste, je suis tombée sur Sylvia's Lovers d'Elisabeth Gaskell, qui avait quand même déclaré que c'était le roman le plus triste qu'elle ait jamais écrit. J'espère pour elle que Darwin ne lui en a pas tenu rigueur.
Et c'était une rediffusion de la chronique de Camille Cronier datée du 26 février dernier. Toutes les chroniques Camille Passauvert sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Antoine Balzo, une réaction sur ces lectures de Darwin.
Eh ben c'est le reflet aussi d'une époque et puis un précurseur. Il a apporté énormément aux disciplines de l'évolution, mettant tout ce cadre. Depuis, ça bouge, ça continue à avancer. La théorie de l'évolution a été modifiée, complétée. On a une vision différente, on la comprend mieux, même si ça continuera d'avancer. C'est ça aussi la science. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le reflet de ses intérêts, des choses qu'il regarde, de son cadre aussi culturel. Il ne faut pas oublier que tout chercheur est ancré dans ce cadre-là à tout moment. Avoir la croyance qu'aujourd'hui, on n'a pas d'idées préconçues par rapport aux scientifiques d'avant, c'est une erreur aussi, et en particulier en préhistoire, où justement on est obligé d'extrapoler un certain nombre de choses tellement on a des données partielles. Penser qu'on sait mieux que ceux d'avant, il faut être prudent et savoir qu'on trouvera plus à l'avenir.
Jacques Malaterre, si on allait jeter un coup d'œil à votre bibliothèque, on en apprendrait beaucoup sur vous, sur l'éclectisme de vos goûts et de vos choix.
Oui, beaucoup, 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 parce que j'ai fait une centaine de films et chaque fois je travaille mes films un peu à la méthode de l'acteur studio. Il faut que je rentre dedans, que je devienne. Donc il y a de la préhistoire, il y a du Molière, il y a du Henri IV. Puis il y a aussi beaucoup de sujets que je n'ai jamais traités, parce que vous savez, si on était payé aux films qu'on ne fait pas, on ferait les films qu'on fait gratuitement.
Ah, c'est intéressant. Allez, c'est à l'évolution de notre espèce que nous intéressons avec vous cet après-midi. On replonge dans les derniers secrets de l'humanité dans un instant, et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous.
Corner standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel?
Do you feel?
C'était Real Power de Gossip sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Daniel Fievé sur France Inter.
Homo sapiens est né en Afrique il y a 300 000 ans. Très vite, notre espèce va alors s'étendre sur le continent africain, puis au Moyen-Orient, en Europe, mais aussi en Asie. Homo sapiens aime l'aventure. Nous sommes dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, il y a 110 000 ans. Face à la fragilité de la vie, Homo sapiens s'est organisé. Désormais, c'est à celle ou à celui qui a le plus d'expérience qu'il confie son destin.
Au crâne coupé.
Le statut de chef est né.
Grandi.
Un nouvel extrait du film Les Derniers Secrets de l'Humanité, diffusé demain soir sur France 2. Nouveau film événement de notre invité Jacques Malaterre, sur lequel Antoine Balzo, paléo-anthropologue, a joué le rôle de conseiller scientifique. Je signale aussi la parution du livre Les Derniers Secrets de l'Humanité, coulisses d'un tournage en Chine, aux éditions Glyph, dans lequel vous livrez justement un petit peu les coulisses du tournage de ce film événement. Et puis il y a des questions qui arrivent pour vous sur la page de l'émission. Jean qui vous demande comment avez-vous choisi la couleur de peau et des cheveux des personnages de ce film, Jacques Malaterre.
Alors ça, c'est toujours une grande question qui revient depuis 20 ans, bien évidemment, parce que beaucoup de choses ont disparu, et notamment la peau, les cheveux, tout ce qui est bois et tout ça. Donc après, on fait des choix, des fois peut-être un peu drastiques, des fois peut-être un peu iconoclastes, en prenant conseil toujours avec nos scientifiques. Je dois dire aussi qu'il y avait Antoine, il y avait Yves, il y avait tous leurs collègues, mais il y avait aussi le professeur Gao Qing de l'université de Pékin et d'autres chercheurs chinois qui ont travaillé. C'est pas des Français qui sont allés faire les colons en Asie pour raconter aux Chinois leur préhistoire. Mmh. C'était vraiment un travail de collaboration et de partage. Mmh. Donc il y a des choix, pareil, discuter des heures sur aussi est-ce que les yeux étaient déjà bridés, pas encore bridés.
Parce que pour Erectus, comme vous avez travaillé avec des locaux, et ben pour Erectus, ils ont les yeux bridés.
Yves avait une théorie là-dessus, puisque pour tout vous dire, les secrets du tournage, il y avait une histoire avant qui se passait, nous on commence à 1,2 million, mais il y avait une histoire avant qui se passait à 2 millions d'années, où on montrait justement ces premiers arrivants, et Yves avait aimé l'idée de se dire, mais tiens, ils sont arrivés par les steppes glacées avec des fortes luminosités, donc leurs yeux se sont bridés et leurs orifices se sont rendus étroits pour se protéger du froid et se protéger des fortes lumières. Ouais. C'est une théorie comme une autre qui n'a pas une valeur...
Qui n'a pas été prouvée.
Mais qui se tient. Mais qui se tient.
Bernard vous demande qui était l'homme de Pékin. C'est un homme préhistorique, c'est un homo erectus, Antoine Balzo.
Oui, là c'est un mélange de la petite histoire ou de la grande histoire de nos recherches préhistoriques et de l'histoire de l'évolution humaine. L'homme de Pékin, c'est le fossile Pithecanthropus erectus, les fossiles trouvés à Zhoukoudian, où on les a appelés homme de Pékin, parce que c'était un site important historiquement, trouvé des années 20 à 30, et puis des fouilles de très long cours, donc beaucoup de fossiles et vraiment ce point important dans notre histoire de la préhistoire, l'homme de Pékin. Aujourd'hui, c'est comme l'homme de Java, l'homme de Cro-Magnon, sont des fossiles très importants pour étudier l'évolution humaine, mais c'est un fossile parmi d'autres, il ne faut pas donner de sens particulier à ce terme-là.
Il n'y a pas une partie de ces fossiles qui ont été perdus étudiés. Ça rend aussi le côté un peu romanesque.
Il y a le côté dramatique. Ils ont a priori tous disparu. Ils seraient au fond de la mer ou au fond d'un fleuve coulés lors du départ pour essayer de fuir la guerre.
Ouais, bah ça, c'est une perte dramatique, parce qu'on ne pourra plus faire parler ces fossiles. On les a étudiés dans les années 40, 50, et puis...
Alors là, c'est particulier, parce qu'évidemment, on a perdu les fossiles humains, ils sont on ne sait où, malheureusement, peut-être qu'on les retrouvera un jour par hasard.
Ou alors ils sont chez les collectionneurs.
Ouais. Ou peut-être, on c'est vrai pas, que parfois, des fossiles réapparaissent comme ça, cela, on ne sait pas. Et c'est dommage, alors on a quand même des copies, des doubles, des moulages, etc. Donc un certain enregistrement qui est intéressant. Et puis en corollaire avec ça, il ne faut pas oublier que la préhistoire, quand on l'étudie, on détruit. Quand on fouille un site, finalement. Ce site-là, il était gigantesque. Il a été fouillé très vite par des techniques de fouille anciennes, il y a un siècle, c'est logique. Et donc, on détruit l'enregistrement qu'on ne peut plus réétudier aujourd'hui. Ouais. Et c'est une réalité dans tous les sites archéologiques, c'est toujours un peu dommage.
Alors, on a beaucoup parlé d'Homo erectus, il faut quand même qu'on parle d'Homo sapiens dans cette histoire. Déjà, c'est quoi le lien de filiation, s'il y en a un, entre erectus et sapiens? Est-ce que des espèces d'Erectus ont côtoyé des Homo sapiens ou est-ce qu'elles se sont succédées? Comment il faut agencer ça?
Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse définitive à la question vraiment de l'ancestralité. Simplement parce que aujourd'hui on connaît plusieurs dizaines d'espèces humaines qui sont connues par quelques fossiles à travers le monde et à travers le temps. Donc on fait des barres, on essaye de relier ces barres. Il faut avoir conscience que c'est extrêmement parcellaire par rapport à la réalité qu'il y a eu de cette diversité humaine au cours du temps. A priori, Homo sapiens vient d'Afrique, ça on n'a pas trop de doutes là-dessus par rapport aux données génétiques. Il y a des gros débats sur quels sont les premiers fossiles qu'on range dans Homo sapiens, et de toute façon on a tellement peu de points en Afrique qu'on n'est pas capable de dire exactement où ça s'est fait. Par contre, il est possible qu'il y ait un lien dans ces régions-là avec Homo erectus, bien qu'en même temps, Homo erectus était pourtant en Asie depuis un long moment.
Oui.
C'est ça aussi la magie de l'évolution. En fait, il ne faut pas voir comme une succession d'espèces, mais plutôt par isolation. Un groupe humain va se diversifier, emporter des caractères morphologiques différents, devenir autre chose à partir d'un bloc qui était commun. Et voilà comment Homo sapiens est apparu. Ouais.
Et voilà comment des différentes espèces humaines apparaissent. Et dans votre film, Jacques Malaterre, vous imaginez la rencontre, ce que l'on aurait voulu voir. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes une seule espèce unique à la surface du globe. C'est une situation finalement assez unique à l'échelle
des derniers,
des temps.
Faisons attention.
Voilà. Alors qu'il y a eu une humanité multiple et il y a eu des rencontres entre humains différents. Comment vous avez imaginé ça?
Alors d'abord, il y a une rencontre qu'on a voulu faire, c'est avec l'homme dragon, parce que l'homme dragon est apparu en Chine il y a 2 ans. On a découvert qu'il y avait une nouvelle espèce humaine.
Alors il est apparu il y a bien plus longtemps que ça, mais on l'a découvert il y a 2 ans.
Voilà, exactement, oui, pardon. Ouais. Et l'homme de Longhi, en fait. Ouais. Donc on s'est dit, là, c'est quand même, on va être dans l'actualité, donc on va montrer cette rencontre. Et puis on avait envie, à travers cette rencontre aussi, qu'il n'y avait pas forcément affrontement avec celui qui venait d'ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la préhistoire. Qu'on rencontre encore aujourd'hui dans les quelques peuplades qui sont nomades. Moi qui suis allé en Mongolie, chez les Tsatans, qui vivent sous tipi indien et qui élèvent des rennes. Si vous frappez avant d'entrer dans un tipi Tsatan, vous l'humiliez. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas prêt à vous accueillir. Donc il faut surtout rentrer comme ça, là, à la hussarde. Mmh. Et puis on a voulu aussi qu'il rencontre, faire la rencontre entre Homo sapiens et l'homme de Flores. Mmh. Cet homme de Flores qui a grandi sur cette île et qui a adapté sa morphologie à l'espace de vie auquel il avait, comme le stégodon l'a fait.
Ouais. Alors l'homme de Flores, il est plus petit, et le stégodon, qui est donc l'ancêtre de l'éléphant que vous avez décrit comme gigantesque, sur l'île de Flores, il a la taille, bon, pas d'un caniche, mais disons d'un cerf, il a la taille d'un cerf. Et il y a une question d'ailleurs qui est arrivée sur Internet qui vous demande pourquoi sur les îles il y a cette façon de rétrécir les espèces comme les espèces humaines.
Il y a tout un équilibre qui se fait sur une île. C'est comme un grand monde, mais en miniature, avec des contraintes qui sont forcément différentes. Donc en général, sur les îles, les grands carnivores disparaissent. Mmh. Et donc les gros animaux ont tendance à devenir plus petits parce qu'il y a moins de ressources et moins de dangers. Et les petits animaux s'équilibrent au milieu de tout ça. Flores, c'est particulier parce qu'il y a le dragon, les gigantesques varans qui peuvent attraper plein de choses. Et donc l'équilibre est un peu différent. C'est pour ça qu'on a ce stégodon qui est petit. Il paraît petit, sachant qu'il y a des éléphants nains qui ont existé sur d'autres îles qui faisaient, eux, la taille d'un caniche actuel.
Ah oui.
Donc ça existe, des éléphants extrêmement nains. Sur Flores, c'était pas possible à cause de ce danger-là. Et puis à l'inverse, il y a des petits animaux qui sont devenus gros pour se protéger, comme des rats qui faisaient 1 mètre. Le corps du rat faisait 1 mètre de long. Mmh. Donc c'est tout un équilibre à trouver. Et là, dans ce cas-là, les humains se sont transformés. C'est surtout ça qui est extraordinaire et qui a causé des débats sans fin dans la communauté des chercheurs, parce qu'on était parti du principe qu'à partir du moment où les humains avaient le feu, se déplaçaient, etc., ils étaient tellement intelligents qui n'étaient plus sujets à leur environnement, et bien là on avait une preuve inverse et donc un sujet très très intéressant d'adaptation des humains.
La taille de l'île sur laquelle ils vivaient a eu une influence au fil des générations sur leur taille à eux. Ils ont rétréci avec vraiment un format, on les voit, ils sont bien plus petits dans votre film.
Oui,
Jacques
mais
Malaterre.
Je crois que chacun des auditeurs peut le constater. Si vous prenez un poisson rouge, que vous le mettez dans un aquarium, il va se prendre la taille de son aquarium parce que sinon il ne survit pas. Vous le mettez.
Je ne sais pas si c'est si simple que ça avec les humains et leur île, mais
en tout cas, vous mettez
parce que ça se fait sur plusieurs générations.
noir et tout, il va devenir énorme. Quoi. Ouais, en tout cas, il y a vraiment une adaptation du corps face à l'espace qu'on est. Mmh. Oui, nous, il fallait. Je voulais absolument raconter cette histoire parce qu'elle est assez magique là aussi, narrativement.
Ouais.
Narrativement, quel scénariste oserait imaginer cette histoire si ce n'est la vie.
Ouais, c'est ça. Hein, cette rencontre entre des humanités et vous avez fait le pari qu'ils s'accueillent, qu'ils s'entendent, qu'ils échangent leurs technologies. On ne peut pas imaginer qu'ils se sont battus, que si ces six espèces qui ont coexisté sur le même continent ont disparu, c'est parce qu'elles se sont entretuées, Antoine Balzo ?
On peut imaginer ce qu'on veut, et d'ailleurs c'est la limite des données scientifiques que l'on a. Certains, en préhistoire aussi, quand on raconte des choses, parfois on va plus loin que dans les fissions de Jacques Malaterre.
Ouais.
Et là, ce qu'on voulait raconter, c'était une histoire qui montre cette diversité humaine. Évidemment, on n'est pas sûr de la cohabitation de chacune. Flores et Sapiens, on n'en a pas la preuve, donc c'est pas la peine non plus de penser que tout est faux, mais il faut aussi montrer des choses, raconter une histoire, et ce qui est important aussi, c'est de montrer que cette diversité existait, qu'ils se sont croisés alors qu'ils étaient peu nombreux, et que pourtant, on a la trace qu'ils ont cohabité, que parfois il y avait des passages de gènes. Chez nous, il y a des gènes denisoviens ou des gènes néandertaliens, peut-être même des gènes d'Homo erectus. La preuve qu'à ces moments-là, parfois, il y avait des transmissions.
Alors, ce travail de vulgarisation, de création de scénarios à partir des connaissances, vous l'avez fait avec Yves Coppens pour l'Odyssée de l'espèce et aussi en partie pour ce documentaire. Il a participé au scénario du film. Je vous propose d'écouter la voix d'Yves Coppens en 2006.
L'histoire que l'on raconte, que ce soit celle de l'univers, celle de la Terre ou celle de la vie et ses 4 milliards d'années d'existence, c'est notre histoire. C'est pas une histoire qui doit nous être étrangère, c'est pas une histoire que l'on doit regarder comme ça à distance. Ça fait partie intégrante de notre propre histoire.
La voix d'Yves Coppens, Antoine Balzo, vous êtes aussi un peu sur les traces de cet illustre prédécesseur.
Oui, enfin bon. En fait, c'est une voix dans deux sens du terme. Une voix évidente, quand on l'écoute, c'est magnifique. Et puis surtout, il a été la voix de la préhistoire depuis des décennies. Et aujourd'hui, si la recherche en préhistoire est aussi présente en France, il y a autant d'activités autour de ces thématiques et autant d'intérêt du grand public, on le doit très largement à Yves Coppens. Et on est des héritiers d'Yves Coppens pour cet aspect-là. Et je suis ravi de pouvoir faire de nouvelles choses, essayer de contribuer à ça, apporter aussi de la science et la mettre en image pour que le grand public puisse voir, comprendre aussi combien ça peut nous apporter aussi à notre compréhension du monde aujourd'hui.
Ça a été une chance pour vous, au-delà du personnage extraordinaire qu'il était, Yves Coppens, mais de rencontrer un scientifique de cette stature, Jacques Malaterre, qui autorise la fiction et qui légitime ce travail, qui avait fait grincer quelques dents sur l'Odyssée des espèces, même si ça a été un succès absolu et mondial.
Complètement, non seulement c'était mon garde du corps,
oui,
au début, les premières années, c'était mon garde du corps, il dit vous y touchez pas. Et d'ailleurs, il avait fait, quand on a commencé à être critiqué en disant comment vous avez osé montrer le singe qui se lève en 5 minutes alors qu'il a mis plus de 50 000 ans pour se mettre debout, Yves Coppens a réuni tous ses collègues au Collège de France, on a fait une projection au Collège de France, il leur a dit les yeux dans les yeux, il a dit voilà, vous avez une trentaine d'élèves soi-disant passionnés de paléontologie qui s'endorment pendant vos cours, nous on a tenu éveillé 9 millions de personnes devant la préhistoire. Et là il le dit dans l'extrait que vous venez de passer, il dit il faut raconter la vie. Et il savait très bien, il disait mais si vous mettez ma tête à 20h30, vous n'allez pas faire d'omnidimat. Par contre si vous racontez la vie de nos ancêtres et que dans cette vie, le spectateur se reconnaît et reconnaît ses émotions, et là, il va pouvoir s'identifier même à un singe. Il va être ému jusqu'aux larmes. Et c'est ce que voulait Yves, c'est émouvoir les gens pour mieux transmettre le savoir.
Jeanne nous envoie ce message, un petit conseil lecture. Yves Coppens avait également collaboré avec Pierre Pelot dans sa série de romans préhistoriques « Sous le vent du monde » où il avait imaginé un lexique de communication des préhumains. Jouissif, nous dit Jeanne. Vous
bien sûr, bien sûr. Avec Pierre, j'ai travaillé au début, quand je vous parlais de comment on a élaboré ce lexique.
Ouais.
On a commencé aussi à travailler avec Pierre, qui avait déjà défriché un peu les premiers mots de nos ancêtres.
Gilles nous envoie ce message, cette question, peut-être vertigineuse, vous me direz ce que vous en pensez. La première utilisation du feu par l'homme est-elle le point de départ du dérèglement climatique ?
Je dirais peut-être pas le point de départ du dérèglement climatique, mais à partir du moment où il a le feu et qu'il le maîtrise, il prend à la nature un de ses pouvoirs. Et si on regarde l'histoire de l'homme, c'est que plus son envie, c'est de devenir plus fort que la nature. Et on le voit au néolithique. au néolithique, il devient la nature, il prend le pouvoir et il commence à faire Dieu à son image.
Et comment vous, oui, vous voulez
oui,
ajouter quelque chose ?
En fait, ce qui me dérange dans cette idée-là, c'est comme si c'était une finalité qu'on n'avait pas le choix. C'est pas une réalité, on avait le choix il y a 2 siècles, on l'a toujours. On peut toujours essayer de concevoir autrement, faire autrement technologiquement pour éviter ce drame technologique qu'on est en train de créer.
Et puis pour reprendre la conclusion de votre film, si vous m'autorisez à la donner, Jacques Malaterre...
Vous allez spolier rien du tout.
Quand on sait pas plus exactement où on va, il faut regarder d'où l'on vient.
C'était la phrase préférée d'Yves, c'est lui qui me l'a appris dès l'Odyssée de l'espèce.
À découvrir demain soir, donc à 20h30 sur France 2, Les derniers secrets de l'humanité. Je signale aussi la parution du livre Les derniers secrets de l'humanité, coulisses d'un tournage en Chine aux éditions Glyph. Et puis je rappelle, Antoine Balzo, que vous avez publié aux éditions Talendier, Brève histoire des origines de l'humanité, paru en poche chez Talendier. Un grand merci à tous les deux d'être passés par la Terre au carré.
Merci beaucoup.
Demain, nous nous intéresserons au béton et aux quantités phénoménales de sable que ce matériau de construction nécessite.